comment s'impose dans le public, le grand public, et quelquefois même le public cultivé, des légendes les plus invraisemblables qui soient, parce qu'elles sont soutenues par un fait indéniable, fantastique, qui est l'implantation dans cette province, au sud de Caen, d'un château majeur, qui est un des grands chefs-d'œuvre de François Mansart, sous ses allures toutes simples qu'il a, un château qui n'est pas brique et pierre, mais qui est de deux pierres différentes, de couleurs différentes, polychromes, et qui s'impose non seulement par la masse architecturale qui s'y implante, mais aussi par les développements paysagers qui se sont ordonnés autour de lui et sur lesquels nous savons si peu de choses, mais qui sont là et qui font que, immanquablement, on ne peut pas manquer de se poser la question, est-ce que ce chef-d'œuvre a eu des échos dans cette province ? Est-ce qu'il a marqué ses contemporains au point que ceux-ci ont voulu en garder quelque chose ? Et donc, mon propos va se développer en trois points. Vous voyez là l'universitaire que je suis. Trois points. D'une part, d'abord, évoquer quelques-uns des cas les plus fantasques, les plus farfelus que j'ai repérés dans cette littérature. Puis, revenir sur le château lui-même et notamment sur ce que nous avons compris aujourd'hui de ce qu'est, de ce qu'a pu être la naissance de ce château. Comment les traits les plus spectaculaires que l'on attribuait généralement à François Mansart, à son génie, était en fait en partie parce qu'il avait une culture architecturale qui lui avait permis de repérer dans des travaux antérieurs, qu'il s'agisse de Delorme, de Ducerceau et d'autres, des traits intéressants qui méritaient d'être mis en scène dans ce château. Et donc il faut revenir sur tout ça pour savoir qu'est-ce qui, de ce patrimoine qui n'est pas simplement celui de François Mansart, mais celui de la culture architecturale française depuis 1540, disons, a pu se manifester dans la province. Et troisièmement, je reviendrai sur quelques cas pour lesquels on peut se poser effectivement plus ou moins sérieusement la question. Et donc d'abord, de l'archéologie fantasque à l'histoire de l'architecture farfelue, je reprends les termes de l'archéologie fantasque à Jean-Pierre Adam, qui a fait un petit livre magnifique qui s'appelle « Le passé recomposé, études d'architecture, d'archéologie fantasque, chronique d'architecture fantasque ». Il en a fait plusieurs versions successives, et dans lequel il démonte toutes les légendes que l'archéologie porte aujourd'hui, dans le grand public, la légende que les pyramides, impossible de bâtir des pyramides, c'est impossible, aujourd'hui on ne saurait pas, etc., alors que on sait parfaitement faire ça. Les statues de l'île de Pâques, c'est extraordinaire, impossible, c'est les martiens qui sont venus les dresser sur les pentes du volcan. Nous savons parfaitement comment tout ça a été fait par les archéologues sérieux. Bon, eh bien, nous, plus modestement, historiens de l'architecture, en dépit des travaux savants qui ont pu être faits sur tel ou tel château, on oublie tout ça, on balaye tout ça et on préfère les belles légendes. Alors, on peut rajouter au dictionnaire des idées reçues cette petite phrase, hein, les châteaux français du grand siècle sont tous bâtis par François Mansart, le jardin est le nôtre, dans la chambre, on admire un portrait Madame de Sévigné par Mignard, vous avez tous vu ce genre de choses, je reviens au point, hein, je vous le mets sous les yeux, hein, que vous ayez ça en tête, même si vous le connaissez par cœur, la photo est assez belle parce qu'elle nous permet de bien comprendre à la fois le jeu des masses et le développement du château dans son paysage. Est-ce qu'il y a quelque chose d'analogue qui viendrait directement de ce chef-d'œuvre ? Alors, voilà la réponse des architectes fantasques, des historiens de l'architecture fantasque. Entre légendes complaisantes et attributions mal fondées, reste peu de place pour l'histoire. Alors, effectivement, les histoires un peu sérieuses de l'architecture française ont écarté, balayé cette hypothèse, hein, que j'ai posée comme mon sujet, ce qui est un peu absurde. Louis Hautecoeur, les monuments attribués à Mansart sont fort nombreux en Normandie, hein, il parle de la Normandie, mais la plupart ne semblent pas de sa main. Ben voilà, c'est bon. On pourrait s'arrêter là, au revoir, j'ai fini. En 1998, dans le livre que j'avais coordonné avec Jean-Pierre Bablon sur François Mansart, il y avait un petit paragraphe sur les châteaux attribués à Mansart, et voilà ce que j'écrivais sur les châteaux normands. Hein. L'attribution à Mansart avancée par divers auteurs, et en effet il y en a une longue liste, des châteaux normands de Brécy, appartenant à Jacques Lebas. Il est vrai, parent de Jean de Choisy, et j'avais gardé ce point parce qu'il me semblait le seul un peu sérieux dans ses attributions. Une parenté entre deux possesseurs de châteaux peut expliquer effectivement qu'on s'adresse au même architecte. J'avais gardé ça et vous allez voir bientôt que ceci s'est écroulé dans le train qui m'a amené de Paris en parlant avec Étienne Faizan. Mais Daubeuf, 1629, on lui a donné le château de Daubeuf près de Fécamp, bâti en 1629, parce qu'il rappelle le château voisin de Cagny qui a longtemps passé pour son œuvre. Alors, l'argument « ça a longtemps passé pour son œuvre » qui n'est pas un argument. Personne ne peut penser que la durée d'une erreur est une preuve. Et je connaissais Cagny, j'avais travaillé sur Cagny, je n'ai jamais vu le moindre rapport du point de vue de l'architecture entre Cagny, et nous allons le voir tout à l'heure, nous allons y revenir, et Daubeuf. Donc c'est absolument mystérieux comment on a pu inventer cette idée, avancer cette idée qui ensuite est reprise par les auteurs les plus sérieux, puisque Braham et Smith, les auteurs de la grande monographie de 1974 sur François Mansart, qui ont fondé la connaissance scientifique de Mansart pour notre génération, disent que les phrases sont, l'écriture de ces phrases attributionnistes sont extraordinaires parce qu'on joue constamment sur l'ambiguïté, le doute, le flou pour aboutir à une certitude. Hein. Donc Braham et Smith, tout savants qu'ils soient, se sont laissés impressionner par leur grand maître Blomfield, qui pour eux est ce que mon Hautecoeur est pour nous, hein, le grand auteur anglais sur l'architecture française du XVIIe siècle. Il est donné comme une impossible œuvre de jeunesse de Mansart, et cette vue peut refléter une tradition antérieure. Peut refléter, c'est-à-dire que rien n'est sûr. Bon, et ensuite, Hautecoeur note une similarité stylistique avec Cagny. Alors là, j'ai trouvé ça très fort parce que ils avaient pas dû regarder Cagny depuis très longtemps quand ils ont écrit la phrase. Hein, tellement c'est différent. Bon. Et la proximité près de Fécamp. Alors parce qu'on est près de Fécamp, et ben c'est la même chose. Si on disait que deux tableaux accrochés dans le même musée sont du même auteur parce qu'ils sont côte à côte sur les Cimaises, qu'est-ce qu'on ferait ? Voilà, hein. Daubeuf, Cagny, une analogie qui vous frappe. Hein. Et c'est là-dessus qu'on attribue Daubeuf à Mansart. Hein, comme Cagny, soi-disant, est de Mansart, donc Daubeuf est aussi de Mansart. Donc, cheval de course à pied, pied à terre, etc. Bon, c'est l'enchaînement des erreurs qui s'engendrent les unes les autres, et dont il est extrêmement difficile de se débarrasser. Vous avez vu tout à l'heure que moi-même, dans ce petit résumé de 10 lignes sur les attributions fantaisistes à Mansart, j'ai quand même glissé une erreur majeure en gardant cette idée que Jean de Choisy et le bas de Brécy étaient parents. Voilà, le cas de Brécy. Allons-y, allons au fait, parce que là, celui-là, il est tellement extraordinaire que je ne sais pas si vous allez me croire. C'est peut-être un cas que j'ai inventé pour orienter ma démonstration. Bon, là, une belle photo de Brécy qui montre les deux parties qui ont été attribuées, entre guillemets, à François Mansart successivement, puis simultanément. Le grand portail d'entrée dans la cour que vous voyez ici à revers, au fond de l'image, et les jardins qui s'étagent très légèrement, parce que le dénivelé est extrêmement faible, donc qui s'étagent très doucement derrière le château. Bon. Le château lui-même, on n'en dit rien, parce qu'effectivement, il est tellement peu près de François Mansart qu'on n'ose même pas en parler. Donc, on se demande comment ce château qui est là est encadré de deux morceaux dus à la plume géniale de François Mansart. Alors voilà, et voilà, hein, le portail. Alors, on peut pas dire, le portail, c'est un portail classique. Hein, c'est un portail avec une travée d'ordre ionique, un entablement dont la frise est joliment ornée d'un entrelacs d'ornements, et ce petit fronton cintré, etc. On est effectivement dans le monde, on est bien dans le monde de François Mansart. Mais c'est le monde de François Mansart, le monde de son temps. Ça ne veut pas dire pour ça que c'est de la plume de François Mansart. Il y a un monde, si je puis dire, entre le monde de François Mansart et François Mansart. Et le jardin derrière, dont je ne sais pas ce qui relève du XVIIe siècle. tous ces jardins, vous le savez bien, tous ceux qui connaissent Villandry ne sont plus abusés par le fait qu'il s'agit d'un jardin du XVIe siècle, c'est un jardin du XIXe siècle, comme Monique Mosser l'a parfaitement montré, et donc il ne faut pas confondre ce qu'on voit aujourd'hui des jardins dans des sites ancien du XVIIe et le jardin du XVIIe siècle, qu'on ne peut plus guère connaître que par des documents, que par des plans, et pas par des constructions de botaniques. Alors voilà, à propos de Brécy, Henri Soulange-Bodin, qui a longtemps fait autorité avec son magnifique livre sur les châteaux de Normandie en deux tomes de 1928, où se trouvaient des monographies illustrées, sans d'ailleurs aucun plan, hein, parce que c'est l'époque où l'architecture n'existait pas comme architecture, mais seulement comme belles images. Donc, voilà ce qu'il écrivait. Quant à l'architecte de Brécy, il s'appelait François Mansart. Hein, ce qui est une hypothèse devient une affirmation à l'imparfait. Hein. On estime que c'est lui. Alors, mais on revient en arrière. On estime en effet, bon, que c'est lui qui. Mais on estime, ça ne veut pas dire qu'on sait. Ça veut dire que c'est prouvé. Mais ça suffit pour que la phrase puisse passer. Hein. C'est lui qui dessina les plans de cet ensemble de grande envergure, comme s'il suffisait que ce soit un ensemble de grande envergure, qui était quand même une envergure assez modeste, puisqu'il s'agit simplement d'un jardin de parterre juxtaposé sur une légère pente. On ne peut pas dire que c'est ni Versailles, ni Meudon, ni Balleroy, évidemment. Hein. Le château fut construit dans la grand public, hein, merveille des châteaux de Normandie. On ne donne même pas le nom de l'auteur parce que ce qui est important, c'est la merveille des châteaux de Normandie. Le château fut construit dans le deuxième quart du XVIIe siècle, ce qui n'est pas faux. Le charme égale la perfection de l'ensemble. Là, dès qu'on dit des choses un peu vagues, là, il n'y a pas de problème. Hein, charme, perfection, tout ça, ça passe, ça coule. On dit que c'est le règne du on dit. On dit que Mansart y fut pour quelque chose. Quoi ? Les fausses preuves s'imposent peu à peu, même dans la littérature la plus savante. Braham et Smith, je reviens à eux, les auteurs de la monographie de 1974 sur François Mansart, stylistiquement, l'écran de l'entrée et les jardins semblent dater des années 1620. Oui, d'accord, c'est vrai. Et tous deux présentent des similarités, alors c'est là qu'on voit qu'ils sont un peu savants, ils disent avec le travail de Debrosse, du cercle de Debrosse et d'Ury. Alors ils changent d'architecte, mais on se demande pourquoi d'ailleurs, à vrai dire. C'est pas du tout évident. Hein. Étienne Faizan, qui travaille sur Salomon Debrosse depuis un moment maintenant, c'est bien que définir le style de Salomon Debrosse, d'Ury dans ces années-là, il n'y a rien de plus difficile d'isoler ce qui est propre à Salomon Debrosse des autres. C'est simplement parce qu'il pense à Blérancourt. Et Blérancourt, c'est un château qui a été étudié de façon magistrale par Rosalie Scoop, qui était comme eux, élève, disciple d'Anthony Blunt, et donc il rapproche de ce qu'ils connaissent. Mais en fait, tout ça est sur un étang, un lac, une mer d'ignorance. Et avec le travail précoce de Mansart. Et j'aimerais bien savoir à quel travail précoce de Mansart il pensait pour penser que c'était l'écran de, enfin l'entrée de Brécy qui était proche d'une autre œuvre de Mansart. Et même Pérouse de Monclos, dans son guide de Normandie si utile de 2008, la parenté de Jacques Lebas, alors c'est l'autre argument, la parenté de Jacques Lebas avec les choisis de Balleroy a fait attribuer. Alors ça, c'est extraordinaire parce que a fait attribuer, c'est-à-dire qu'il ne s'engage pas. Hein, il ne s'engage pas. C'est les autres qui ont dit ça. Ils ont attribué à Mansart deux parties exceptionnelles, le portail et les jardins. Mais ça veut dire qu'on ne sait vraiment pas ce que pense Jean-Marie Pérouse de Monclos de cette affaire. Hein. On dit que, en fait, c'est ça. On dit que, voilà. Mais alors, c'est là que coup de théâtre, moi-même, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais donné dans le Brécy appartenant à Jacques Lebas, parent de Jean de Choisy. En fait, c'est une triple erreur, comme me l'a appris Étienne Faizan. Il y a très peu, hein, il n'y a aucune parenté entre Jacques Lebas et Jean de Choisy, contrairement à ce qui est affirmé par tout le monde, on ne sait pas pourquoi. Ou plutôt, on le sait, on peut imaginer qu'il y a une confusion entre l'alliance, la parenté entre Jean de Choisy et Lebas, parce qu'il y en a une entre les descendants de Mansart et les Lebas. Des Lebas, pas forcément ceux, pas forcément les mêmes, même pas forcément les mêmes. Et en tout cas, que cette parenté s'établit à une date à la fin du siècle, peut-être même au début du siècle suivant, qui évidemment n'explique rien puisque le château est déjà bâti depuis presque plus d'un demi-siècle. Donc là, c'est le comble, hein. C'est le comble. Et puis, alors, cette fameuse analogie stylistique, j'ai été chercher dans mes boîtes de photos deux images empruntées à une traduction de Vignol par Pierre Lemuet et à une édition de Palladio par Pierre Lemuet, dans lequel il publie des portails de son invention. Et vous voyez que ces portails sont aussi près du portail de Balleroy, de Brécy, que de n'importe quelle œuvre de Mansart. Et même Mansart, j'arrive même pas à trouver des images équivalentes. Donc, il est évident que quand on se contente de parenté stylistique aussi vague que une ordonnance classique, à petits pilastres cannelés ornés de fleurons et de guirlandes, il est évident qu'on peut avancer n'importe quoi. Donc, je pourrais attribuer Brécy à Pierre Lemuet, je pourrais peut-être le faire d'ailleurs. Enfin, j'ai déjà parlé avec devant vous, donc ça marcherait pas. Mais et alors, le plus beau, c'est que ici, grâce à Internet, Edith, merci pour le poste d'Internet qui m'a permis de découvrir à temps cette perle de la science numérique, hein, la perle de la science numérique. La légende veut que ce soit l'architecte François Mansart qui soit occupé de la construction, mais bon, avec les légendes, un, on ne sait pas vraiment le vrai du faux. En fait, on pense plutôt à un des oncles de Mansart. Alors là, c'est le plus fort, parce que ses oncles, ils étaient charpentiers, ils étaient menuisiers, ils étaient absolument, enfin, ou maîtres maçons, mais travaillant sur des ponts à Toulouse et pas du tout en Normandie. Et d'autre part, je pense qu'il y a une confusion avec le petit-neveu, donc on renverse là, hein, le petit-neveu Jules Ardoin Mansart, qui dont le style d'ailleurs ne présente aucun point commun avec Cani. Et on voit que les choses s'enchaînent, parce que il y a une petite phrase qui vient après. Il comporterait, ce château, autant de fenêtres que de jours dans l'année. Ça, c'est un cliché des légendes sur les châteaux. Il suffit de compter le nombre de fenêtres, on y arrive très facilement. Il y en a 11 par étage. Donc, 4 fois 11, ça fait 44, plus sur les côtés une dizaine. On arrive à 60 et pas à 354 fenêtres. Bon. C'est hallucinant. Hallucinant. Et c'est publié par le site de la mairie de Cany, qui cite en note les travaux plus ou moins savants qui ont été publiés sur Cany, dont mon article, et donc je suis crédité de connaissances aussi fondamentales que celle-ci. Enfin, c'est hallucinant. Du coup, ce matin, juste avant de venir ici, j'étais regardé sur Daubeuf, hein. Alors, un site qui semble presque un site d'ailleurs du service des monuments historiques. Enfin, en tout cas, c'est décalqué très fortement des fiches du service de l'inventaire. Période de construction, première moitié du XVIIe, architecte ou maître d'ouvrage, François Mansart, architecte. Voilà. C'est-à-dire qu'un nom qui est cité comme peut-être architecte de François Mansart, résumé, devient architecte François Mansart. C'est-à-dire que le peut-être est sauté dans le libellé de la fiche informatique. C'est la seule explication de ce raccourci. Après, vous avez fait bien sourire ou rire éventuellement avec ces exemples qui montrent ce qu'est en fait effectivement ce substrat de légende, d'invraisemblance, d'aberration, d'une histoire de l'architecture complètement farfelue, mais qui s'impose maintenant sur les écrans et dans les fiches de Wikipédia, etc. Hein? Le probable devient le certain. Les fake news ne concernent pas simplement les hauts faits de Monsieur Trump, mais aussi François Mansart en Normandie. Alors, revenons à notre sujet. Là, on est confronté à un vrai chef-d'œuvre, Balleroy, une composition méditée avec un E, pardon. Je voudrais vous montrer là comment, les traits les plus saillants du château et le substrat historique de ces traits saillants. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un trait de Balleroy, c'est un trait qui s'appuie sur une culture architecturale qui a commencé à se constituer dans les années 1530-1540 et qui s'est épanouie à la fin du XVIe siècle dans les grandes publications de Jacques-André du Cerceau et qui ensuite va se nourrir la culture des grands architectes qui n'écrivent pas, c'est-à-dire François Mansart. Pas de texte de François Mansart, pas de texte de Jacques Lemercier, pas de texte de Levaux. Il y a que Pierre Lemuet qui traduit les Italiens, mais qui n'écrit pas non plus tellement des choses très originales. Mais malgré tout, il écrit un peu sur ce qu'on fait, mais sans de dimension esthétique, hein, sans de vraie réflexion. Et c'est d'autres textes qui nous éclairent un peu sur cette culture qui s'est constituée au siècle de Louis XIII et dont Balleroy est une des plus hautes manifestations. Balleroy se situe parmi les premières œuvres de François Mansart. C'est ce que la petite biographie Charles Perrault, des hommes qui ont illustré le siècle de Louis XIV, dit. Hein, une des premières œuvres de François Mansart, après la façade des Feuillants et le château de Berny au sud de Paris, sont des compositions pyramidantes. Et dans le cas de Berny, c'est même tellement évident, c'est évident par l'histoire de ce château, qui est un château des années 1580, qui comportait, comme caniche justement, un corps de logis simple en épaisseur, avec deux corps, deux gros pavillons saillants en avant et en arrière, comme à Cany. Mais aucun motif central, comme Cany. Et c'est pas pour ça qu'on va penser que c'est le constructeur du château de Berny, première époque, qui est l'auteur du château de Cany 60 ans plus tard. Ce sont des types de compositions qui traversent les époques, les architectes, et qui s'imposent et qui ensuite éventuellement sont corrigés parce qu'on cherche autre chose. Et c'est ce qu'on a cherché ici, les nouveaux propriétaires de Berny ont en quelque sorte inséré un haut pavillon de deux étages sur rez-de-chaussée au milieu du corps de bâtiment central et créé donc une composition pyramidante. C'est le début d'une réflexion de Mansart sur la composition pyramidante qui est essentielle si on veut comprendre le sens de sa création au fil des décennies, mais qui s'ancre tout de suite. Nous sommes ici en 1624. Jean de Choisy, conseiller du roi, seigneur de Balleroy depuis 1600, qui est au service de Gaston d'Orléans, il est proche justement de Pierre Brûlard de Sillery, propriétaire de Berny, et c'est vraisemblablement par cette connexion familiale ici, prouvée, attestée, qu'il a pu entrer en contact avec François Mansart, même si c'est pas la seule raison, parce que Mansart, dans ces années-là, c'est-à-dire vers 1630, s'est déjà imposé sur la scène parisienne comme un architecte majeur, et donc, même sans ce parent qui l'avait employé et très bien employé, puis avait permis de faire un de ses chefs-d'œuvre, même sans ce parent, il aurait pu s'adresser lui aussi à François Mansart. Simplement, je pense que c'est plus dans l'autre sens. Cette connexion familiale a permis à la demande de Monsieur de Choisy d'être reçu par François Mansart. Il savait que ça s'était bien passé avec ses cousins et donc il était assez content de concentrer en quelque sorte ses relations de clientèle, comme souvent le font les architectes qui mènent une carrière assez serrée. Alors j'entre pas dans le détail, mais c'est simplement pour vous montrer l'écart qui existe entre l'absence totale de connaissances chronologiques sur beaucoup des châteaux qu'on attribue comme ça légèrement à François Mansart et la débauche de renseignements précis que l'on a sur la chronologie du château de Balleroy. Ceci grâce à la curiosité, encore une fois, d'Étienne qui a, dans les registres paroissiaux de Balleroy, découvert le nom des ouvriers, des artisans travaillant au château, sur une période qui permet de caler la construction du château de façon très précise entre le marché trouvé par Pascal Yévaud sur le creusement des fossés en juillet 1631 et puis 1640 le début sans doute de l'aménagement des jardins autour du château à peine achevé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a là un exemple de ces intrications d'équipes d'ouvriers qui viennent de différentes régions. Enfin, ou plutôt, qui viennent des deux régions vraisemblables, c'est-à-dire d'une part la région de Caen, évidemment, avec ces ouvriers compétents qui ont travaillé sur les chantiers des églises, des grandes demeures de Caen, etc. Et puis, des ouvriers parisiens qui ont pu être amenés, introduits sur le chantier par l'architecte. Un architecte parisien, François Mansart, qui vient avec les maçons qu'il connaît, dont il connaît, il apprécie le savoir-faire et qu'il sait guider, ou plutôt à qui il sait confier la conduite du chantier, parce que lui ne reste pas. Lui ne reste pas, il donne les dessins, il est sans doute venu pour voir le terrain, mais il ne reste pas. Et c'est donc le Robert Fastier, maître maçon, qu'il avait connu dans un chantier de Notre-Dame de Paris, qui suit de près les travaux et qui va d'ailleurs être tellement impressionné par ce qui se passe à Bas-le-Roi, qui va introduire ça dans un autre château de l'Île-de-France, où il va reprendre l'idée de ces fossés et de ces terrains qui entoure le terre-plein du château. Le château de Bas-le-Roi, dans son principe, n'est pas une invention originale dans son cœur. Et ça a été une de mes surprises il y a quelques années maintenant, lorsque, ayant trouvé les procès-verbaux des descriptions du château à deux dates différentes, mais très proche de la date de construction, en restituant grâce à ces descriptions très précises les plans, j'ai découvert que le plan du château de Plessis-Belleville au nord de Paris, c'est quasiment le plan de Bas-le-Roi. Donc, quand il a dessiné Bas-le-Roi, François Mansart n'a rien fait de très original. Dans son principe, il a repris tel quel, ou presque, le dessin du Plessis-Belleville. Ce qui est un peu étonnant par rapport à la réputation qu'on lui fait d'inventeur, d'architecte toujours plein d'inventions qui ne veut jamais se répéter deux fois, etc. Non, c'est pas tout à fait vrai. Là, en l'occurrence, il a vraiment repris ce dessin. Et donc, quand on dit les échos normands de Bas-le-Roi, est-ce qu'il faudrait dire les échos normands du Plessis-Belleville? En tout cas, Bas-le-Roi n'est qu'un relais entre la conception d'un château neuf en Île-de-France et des châteaux qui s'inspireraient de ce type de distribution. Je reste au conditionnel, vous voyez. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'il a... surenchéri sur son premier dessin. Il a ajouté, et c'est ça qui est remarquable, cette plateforme avec ces terrasses qui encadrent la cour, ces terrasses découvertes, et je vais y revenir, et il a installé en avant de cette cour, de cette plateforme, deux petits pavillons bas qui marquent les angles de la plateforme et qui rappellent les tours et les pavillons qui encadrent une plateforme fossoyée médiévale. On est là dans cette histoire à très long terme où la forme du château médiéval continue de façon sous-jacente à informer et définir les plans des châteaux du début du XVIIe siècle. C'est après que se fera la grande rupture, c'est plutôt effectivement le grand, non pas le grand-oncle, mais le petit-neveu de François Mansart, qui va introduire cette rupture, on va plus s'occuper des fossés, ou très peu, ou tout autrement, parce qu'on n'a plus besoin de cette référence médiévale, on ne s'y attache plus, on a autre chose, le faste de la cour remplace complètement cette inscription architecturale et cette implantation dans le sol de ces bâtiments. Non seulement le château est placé sur cette plateforme, mais il est installé dans une perspective paysagère tout à fait extraordinaire, dont nous ne savons rien, Nous ne savons pas quand elle a été établie. Est-ce que c'est François Mansart qui l'a définie dès la construction, qu'il a défini dans les années 1650, c'est pas impossible. François Mansart a repris, et on avait vu ça avec Étienne Faizan en travaillant sur le catalogue même de François Mansart, dans beaucoup de chantiers de François Mansart, François Mansart revient sur ses chantiers pour leur donner une dimension paysagère. Des allées d'accès, des grandes allées de perspective à l'arrière du château. On voit ça dans beaucoup de châteaux de François Mansart, y compris le château de Maison, dans lequel on dessine encore, juste après, un an après la mort de François Mansart, on trace des allées d'arbres de l'autre côté de la Seine, vers Paris, pour prolonger encore la grande perspective que Mansart avait établie de son vivant. Donc on est vraiment dans une construction à très long terme de ces grandes perspectives. Eh bien, Balleroy s'inscrit tout à fait dans cette tradition, mais impossible de se dire que c'est qu'il y a une relation de cause à effet entre Balleroy, entre Balleroy et les châteaux parisiens de François Mansart, et avec les autres châteaux qui présentent en Normandie ce genre de perspective et qui ne sont pas si fréquents que ça. Il y a guère, moi je ne connais guère que Cagny qui présente des traits aussi frappants. Vous allez sûrement me corriger, mais comme ça je pourrais en apprendre un peu plus sur ces prolongements de cette dimension qui est propre à Mansart. Que Mansart développe tout spécialement. Parce qu'il a, et c'est ce qui explique qu'on ait pu considérer que François Mansart, sans légende justement, ait été le maître d'André Le Nôtre, qu'il ait formé André Le Nôtre. Car c'est là un premier architecte à faire œuvre de jardinier paysager. Et pas simplement de dessiner un jardin devant le château, comme c'est facile, et comme le font les architectes du XVIe siècle constamment. Et donc la grande place semi-circulaire, en haut de la pente, qui est reconstruite, on sait par quelques actes que les maisons sont reconstruites pour définir cette place circulaire ou semi-circulaire. Enfin, elle n'est pas complètement circulaire, mais on est un peu comme dans le camp d'hier, dans des places qui sont un peu incomplètes, mais on voit déjà qu'il y a un dessin très fort qui est sous-jacent. Et puis cette pente qui descend vers le rue qui coule en contrebas, puis la pente douce qui monte vers de l'autre côté du château vers la forêt. Donc là, juste quelques images pour vous rappeler cette composition très frappante d'une allée continue en pente raide, puis qui remonte doucement vers le pavillon central du château. Et quand on s'approche, on voit qu'on retrouve là une pente plus douce, mais malgré tout très marquée, avec les communs à gauche et à droite, puis les pavillons qui sont de part et d'autre de la plateforme, puis les grands pavillons au fond de la maison seigneuriale. Je crois que c'est là qu'on voit à quel point on a une composition maîtrisée, des volumes dans l'espace, qui est sans égal. Voilà les plans qui viennent confirmer simplement ce que je viens de montrer de façon plus illustrative. Le détail de ce relevé du milieu du XVIIIe siècle nous montre le plan de la plateforme avec les pavillons détachés en avant, mais néanmoins pas tout en avant. On a tout en avant simplement des petites échauguettes. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que la conception pyramidante de François Mansart vient s'incarner dans des objets de plus en plus contrastés. Les petites échauguettes vers l'avant, les pavillons en rez-de-chaussée à gauche et à droite, puis les pavillons de deux étages, puis le grand pavillon central de trois étages. On a une vraie progression qui est assez étonnante. Mais ce que vous voyez en plus, et sur lequel je n'ai pas encore assez insisté, c'est que le logis seigneurial est relié par des corridors installés sous la plateforme au sous-sol des pavillons détachés. Et que donc, on a une disposition, on a des terrasses qui viennent remplacer les ailes anciennes. On a un château en quadrilatère ici encore. mais les ailes sont, ne sont pas remplacées seulement par des galeries, comme on fait souvent, fermées, ou par des galeries ouvertes, à portique et à une galerie fermée au-dessus. C'est maintenant simplement une terrasse, c'est-à-dire une troisième famille d'espace. Après la galerie fermée, après la galerie ouverte, on a la terrasse, et qui permet donc d'ouvrir cette cour vers le paysage environnant, qui a été traité par François Mansart de façon spectaculaire, comme vous l'avez vu. Alors, ceci est soutenu par une dilatation très extraordinaire des fossés secs, herbus, ou pour la montre, où on faisait courir peut-être des faisans, comme j'ai trouvé à propos d'un autre château analogue, à fossés secs et planté d'herbes. Peut-être parce qu'on a extrait des fossés même la pierre nécessaire à élever le château, ce qui est assez vraisemblable, et qu'on a élargi cette zone d'extraction pour en avoir suffisamment, vu la hauteur qu'on a donnée au château, puisqu'il a un étage sur rez-de-chaussée et deux étages sur rez-de-chaussée pour la partie centrale. Une composition pyramidale. C'est là, effectivement, le trait premier, majeur, du château de François Mansart, celui que l'on peut, en quelque sorte, saisir. Alors, est-ce qu'il y a en Normandie, des châteaux dont la composition pyramidante est aussi frappante qu'ici. Voilà une première ligne de recherche. Vous voyez, avec les petits pavillons, hein, petits pavillons un étage, grands pavillons latéraux deux étages, rez-de-chaussée et premier étage, et le pavillon central avec sa terrasse haute, hein, avec ses tarots et son clocheton, donc qui constitue une sorte de donjon, littéralement, d'où on peut observer la campagne à très long terme. Et où on voit apparaître, en fait, une des premières fois, de façon spectaculaire, le comble recoupé à la Mansart, dans lequel les grands combles droits sont coupés par le haut pour porter une plateforme. Qui peut être une plateforme qui a une fonction, comme ici, d'observatoire, comme à Maison Lafitte, ou non. Mais ici, visiblement, on a une fonction d'observateur. On a un petit escalier pour monter jusqu'à la plateforme, d'où on peut sonner la cloche, hein, très, très facilement, mais aussi dont on peut apercevoir toute la campagne environnante. Voilà toujours cette composition pyramidante, hein, que j'illustre en élargissant le regard aux petites échauguettes qui sont en avant de la plateforme. Et on peut dire aussi que les terrasses sont successives, c'est-à-dire qu'elles montent peu à peu. Hein. Il y a une première terrasse, puis une deuxième terrasse. Alors, on donne souvent comme préalable, comme explication à ce développement de composition pyramidante, le château de Vitteville, comme précurseur, en quelque sorte. Hein. Comme précurseur, c'est un château qui date, Catherine Krodecki l'a montré, des années 1580, et non pas, comme on le pensait pendant longtemps, des années 1630, hein, 1580. On a bien ici, effectivement, pour une des premières fois, un pavillon installé au centre de la composition et débordant d'un étage entier le château. Et on a aussi une composition qui est un plan massé sur une plateforme plus large, hein, qui est un point aussi important pour la singularité de Balleroy, enfin de Balleroy par rapport aux autres châteaux. Il y a ce précédent qui est là. Il y a pas simplement Vitteville. Dans le petit recueil, enfin c'est pas un petit recueil, à vrai dire, il y a une cinquantaine de modèles de châteaux et de maisons ou champs. Jacques Angrois du Cerceau donne, par exemple ici, ce château de plan massé avec une tour d'escalier en hors d'œuvre montant d'un étage de plus, comme à Balleroy. Hein. Et on pourrait se dire que ce modèle de du Cerceau a pu inspirer François Mansart autant que Vitteville. Mais les deux se trouvent, à vrai dire, dans le recueil du Cerceau, sauf que Vitteville, la façade, propose une autre composition, et donc il n'y a pas cette idée d'étage supplémentaire. C'est la réalisation qui introduit cet étage supplémentaire et ce mouvement légèrement pyramidant. Alors, on peut établir, évidemment, un rapport entre ces deux images, mais C'est là le problème. Si on a maintenant, si on observe des châteaux à composition pyramidante en Normandie, est-ce que, faut-il pour autant y voir une influence de Balleroy ou simplement une influence directe des recueils de Ducerceau qui ont eu connu une diffusion tout à fait remarquable. Et donc, faut-il passer par le relais Balleroy ou y a-t-il une conjonction directe dans un mouvement général qui est celui de l'apparition dans l'architecture des châteaux français de ce type de composition, plan massé avec une tour d'escalier qui vient remplacer en fait mythiquement, si je puis dire, le donjon qui disparaît au même moment. Mais il y a un deuxième lien de Balleroy avec les recueils de Ducerceau, un deuxième lien, pas simplement cette composition pyramidante, mais au contraire, ce qui est en dessous, hein, sous les terrasses, donc ces corridors que je vous ai montrés tout à l'heure, hein, et qu'on peut revoir ici sur l'image de gauche, qui est donc Balleroy, et qui vient, à mon sens, très directement, Mansart a trouvé cette idée, je crois, dans le recueil de Ducerceau de 1582, livre d'architecture pour les champs, où on a des terrasses sous lesquelles se trouve un petit corridor qui mène au sous-sol du corps de logis. Alors là, il n'y a pas de pavillon détaché en avant, mais on a quand même déjà l'idée des terrasses superposées, des deux terrasses latérales. On est quand même vraiment, je crois, dans la même famille de plans. Mansart n'a pas copié littéralement la gravure de Ducerceau, mais l'idée est là. Et donc là, c'est la même chose. Si on trouve, et je ne crois pas qu'il y en ait en Normandie, de châteaux qui présenteraient ce dispositif très original de Balleroy, on ne pourrait pas en conclure sans preuve qu'il s'agit d'une influence de Balleroy, puisqu'il existe ce recueil imprimé, largement diffusé partout. Et que donc la chose peut se faire de façon parallèle et non pas de façon de cause à effet. Voilà le plan, hein, tel qu'il se présente chez Ducerceau. Hein. C'est le modèle 24 de son recueil d'élévation pour les champs. Et puis alors il y a le troisième point peut-être des plus saillants du château, c'est son escalier suspendu à jour central, qui est effectivement, comme le dit la littérature, un des premiers escaliers du genre, mais c'est surtout un des premiers escaliers du genre, parce que les autres sont mal connus, hein, alors qu'on en a repéré dans la Manche plusieurs, qu'il y en avait en Île-de-France, un des hôtels de la place Royale présentait un escalier de ce genre. Donc on est là plutôt dans le champ de notre ignorance et surtout de la destruction massive de ce type d'escalier qui paraissent effectivement très encombrants et peu lumineux pour l'espace qu'ils occupent et qui vont donc être assez facilement remplacés au XVIIIe siècle par ces escaliers vertigineux et lumineux que nous avons vus hier, toute la journée, avec des maîtres d'œuvre qui savent les mettre en place extrêmement facilement, en dépit du caractère apparemment féerique de cette gravitation de volée dans l'espace. Je vous rappelle malgré tout que ce type d'escalier a été inventé dans le Midi, un peu avant le milieu du XVIe siècle, et que, comme par hasard, François Mansart vient travailler plusieurs années au pont de Toulouse avec ses oncles, et que donc il n'a pas pu ne pas voir ces escaliers remarquables du Capitole de Toulouse, et que donc c'est là, sans doute, qu'il a connu et compris et appris à construire ce type d'escalier. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde sait les faire. Et on trouve d'ailleurs des escaliers à jour dans les livres d'architecture de Jacques-André Ducerceau. Pendant longtemps, j'avais pas fait attention au fait que ce type d'escalier est présent partout. Voilà. Alors il y a des petits détails aussi qui sont la preuve de la sophistication de l'architecture de François Mansart. Il s'est dessiné des petits éléments comme ces échauguettes. Qui sont une sorte de réduction des pavillons qui sont plus loin. Et puis, il cite volontiers Et il cite volontiers ses maîtres, et notamment Philibert Delorme, dont il copie le grand escalier convexe-concave de Danet devant le château. Bon. Donc on a là un ensemble, une maîtrise d'une connaissance architecturale très très vaste qui s'incarne dans ce bâtiment apparemment simple, avec cette architecture apparemment simple. Alors, qu'est-ce qui peut en rester? Rien qu'en accrochant trois images, celle de Cany à gauche, celle de Daubeuf et au-dessus de Beauménil, vous montre tout de suite que le caractère principal, composition pyramidante du Balleroy de François Mansart, est présente certes à Beauménil, mais ne se voit pas ni à Cany, ni à Daubeuf. Et que donc, ce qui est le marqueur en quelque sorte du château de François Mansart n'est pas présent. On pourrait pourtant se dire qu'il y a une bonne raison que ces châteaux se ressemblent et ressemblent au château de Balleroy. C'est qu'ils sont faits par les parlementaires rouennais. Donc il y a une classe sociale, homogène, disposant de revenus réguliers, installés dans leurs terres, qui veulent rebâtir dans les années 1630, hein, puisque tous ces châteaux datent des années 1630-1650, et parce que c'est une phase effectivement curieusement de grande construction, alors même qu'on est en pleine guerre de 30 ans, et que normalement on devrait être tout le monde devrait être en faillite. Ben non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis grâce à la guerre, comme souvent d'ailleurs, et donc ça n'explique pas la diversité des constructions. On pourrait croire qu'il y a une imitation d'un château à l'autre, mais non seulement il n'y a pas d'imitation, me semble-t-il, de ces châteaux au château bâti par François Mansart, mais il n'y a pas d'imitation d'un château à l'autre. Entre eux, ils ne se ressemblent pas non plus. Et s'ils se ressemblent un peu, c'est pour des traits d'époque. Et donc, ils sont partagés un peu par tout le monde, et donc, ils n'ont rien de spécifique. Alors, une architecture de pavillon juxtaposé, c'est un trait d'époque qui n'a aucun lien spécifique avec le château de Balleroy, mais qui trouve sa source dans les modèles de Ducerceau. Donc, s'il y a quelque chose de commun entre ces châteaux, parce qu'il y en a quelques-uns, malgré tout, qui sont bien faits de pavillons juxtaposés, ça c'est évident, il y a bien ce trait, mais c'est un trait qui déborde de beaucoup le lien spécifique entre Balleroy et tel ou tel de ces châteaux. Le château de Daubeuf, par exemple, pour Nicolas Langlois, 1629, un des plus précoces du petit groupe qu'on peut constituer, vous voyez que vous avez ici justement quelque chose qui est le contraire d'une composition pyramidante. Le contraire d'une composition pyramidante. Alors c'est un château, briques et pierres, à pavillons juxtaposés, de même hauteur, etc. Bon, effectivement. Et on peut rassembler autour de lui une famille de châteaux qui présentent ce même trait. Mais c'est un trait qu'on trouve en Île-de-France, en Picardie et bien ailleurs. Parce que c'est l'époque qui est... Et l'époque, c'est quoi? C'est effectivement l'influence des traités de Ducerceau qui sont réédités au début du règne de Louis XIII. Ils sont réédités en 1611-1615. Ce qui montre qu'ils sont toujours, ils ont été publiés en 1559-1582, ils sont toujours actifs dans la culture de l'époque. Et même, ils apparaissent plus féconds, puisque cette culture, on peut bâtir plus facilement maintenant sous Henri IV et Louis XIII que que pendant les guerres de religion. Canteleu, alors là, on voit bien le rapport et en même temps la distance entre les deux. Hein. Daubeuf, Canteleu, c'est aussi des volumes, des pavillons juxtaposés, mais beaucoup plus imposants, qui montent en hauteur, etc. Le château a été complètement transformé ultérieurement, mais on a ce petit dessin qui a été publié par un des plus anciens historiens sérieux de la région, Prévost, je crois que c'est Nicolas Prévost, dans une petite plaquette, qui est plutôt dans le bulletin monumental, un des premiers article du bulletin monumental consacré à un château normand. Mais là, Mansart, je sais pas où on le voit, hein. Et quelqu'un dit, il ressemble plutôt aux œuvres de Le Mercier parce qu'il y a un dôme, hein. Et que donc ça rappelle le château de Richelieu. Bon. Je n'accuse personne et. Et voilà donc, Prévost, on a attribué au célèbre François Mansart la construction du château de Canteleu, quelques analogies avec plusieurs des œuvres de ce grand architecte, des analogies. Là, on a affaire à un vrai historien, hein, il emploie les termes propres et pas ses attributions de rumeurs, mais il ressemble plus à certaines œuvres de Le Mercier, notamment au pavillon. En fait, c'est simplement le dôme qui est identique, comme vous avez pu le deviner. Et Hautecoeur, qui connaît tellement bien Canteleu qu'il l'appelle Chanteloup, est plus proche de Mansart, mais plus proche, je ne sais pas en quoi, hein, parce que précisément la composition pyramidante est absolument absente. C'est au contraire un grand dôme central qui rappelle plutôt effectivement les compositions pour le Louvre. Donc on est dans l'architecture savante, sans aucun doute, mais il faut chercher certainement ailleurs qu'auprès de l'atelier de Mansart. Thury, c'est un peu la même chose. On a une juxtaposition de pavillons. On a bien une composition ici pyramidante, mais en même temps, le château se développe de façon assez incompréhensible, comme quelqu'un ici la vient d'observer, oui. C'est-à-dire qu'on a des corps de logis qui se développent sur le côté, on en voit un ici à droite, et derrière. Et donc l'idée d'une composition pyramidante est un petit peu atténuée, même si on a bien des pavillons détachés vers l'avant de la plateforme. Et donc là, on a bien une sorte de parfum, si je puis dire, de Balleroy. Un parfum, mais un parfum qui est assez délié et qui ne correspond pas, pour le reste, à rien de Mansart. Cany, alors, non seulement, à mon avis, ce n'est pas un château dans lequel il y aurait un parfum ou un écho de Balleroy, comme dans le dernier cas qu'on vient de présenter, mais qui prend le contre-pied. Hein. Alors, les auteurs ont bien souligné... soit sans preuve et sans vraisemblance, ça c'est quand même assez imparable, et c'est l'expression qu'on devrait employer pour la plupart des exemples que j'ai évoqués ici. On a bien, par contre, un développement paysager important. Est-ce que l'exemple de Balleroy a pu jouer dans le cadre de la province pour le développement de cette composition paysagère qui se situe néanmoins sur un autre angle, puisque l'allée d'accès au château n'est pas dans l'axe du château comme à Balleroy, ce qui est extrêmement déterminant, mais vient latéralement, comme vous le voyez sur ce plan cadastral que j'ai simplement colorié pour le rendre plus compréhensible, mais qui montre bien qu'on a cherché quand même une composition à long terme, comme le montrent les photographies aériennes. On a heureusement un dessin ancien du château de la fin du siècle, de la fin du XVIIe siècle, qui nous montre que le château est resté presque intégralement dans son jus initial, à l'exception du grand escalier à double volet qui occupe maintenant le centre de la composition et qui permet d'accéder directement au rez-de-chaussée surélevé. Mais pour le reste, effectivement, on a le même dessin conservé, la même plateforme avec ses angles antérieurs saillants qui rappellent virtuellement la présence des tours et des pavillons défensifs médiévaux où la saillie des pavillons de Mansart à la saillie des pavillons de Mansart à Balleroy. Mais cette saillie antérieure de la plateforme en forme de pavillon, c'est quelque chose qui déborde de beaucoup l'œuvre de Mansart, qu'on trouve dans des tas de châteaux de cette époque, quand on s'est débarrassé de la nécessité de se défendre de cette façon, on a gardé presque toujours cette saillie. Donc c'est un trait d'époque plus qu'un trait de Mansart. Et là, surtout, ce qu'on voit, et là, il faut s'approcher pour le voir, les pavillons latéraux sont plus élevés d'un petit attique que le corps central. Au lieu d'avoir, comme à Balleroy, un pavillon central plus haut que ce qui est sur les côtés, ce sont les pavillons latéraux qui sont plus hauts que le pavillon central. Et là, on retrouve un modèle de Ducerceau. Là, ce n'est pas un volume imprimé, mais un volume manuscrit. On a un modèle de Ducerceau pour un château de 2 étages sur rez-de-chaussée enterré qui ressemble énormément à Cagny. Il n'y a pas de lien évident entre les deux, mais c'est un type certainement de plan de château qui a dû circuler dans le milieu des architectes d'Île-de-France et peut-être de Normandie, qui rend compte du plan général, parce que on a presque l'impression d'avoir le plan de Cagny. Malheureusement, actuellement, il n'y a pas de plan Cagny disponible, mais si on avait le plan de Cagny, vous verriez à quel point on a l'impression, c'est-à-dire qu'en fait, les accès se faisaient par des escaliers latéraux dans les deux pavillons. On a une salle au centre, on a un corridor au-dessus pour relier les 2 appartements des pavillons. Donc ça, c'est un type de plan qui est voilà. Et voilà le modèle qui est attaché à ces plans. Là, le contraste entre les pavillons et le corps central est beaucoup plus réduit, beaucoup plus important, mais c'est le même principe. Voilà. Et donc... J'en arrive, et comme je vais très vite, je pense que ce bâtiment est bien connu de vous. Il a été étudié par un article de Bertrand Gestase qui vous permettra de retrouver tous les éléments factuels très facilement, publié dans l'acte d'un congrès archéologique consacré à la région. Peut-être l'œuvre de Mansart est appelée par quelques auteurs un joyau, peut-être, mais en fait, on sait maintenant que les architectes sont différents, puisque le château est lui bien documenté par cette inscription qui donne les dates extrêmes et par les marchés qui ont été publiés déjà anciennement, republiés par Bertrand Gestase et qui nous donne le nom, c'est pas Galard, c'est Gaillard, maître maçon, bourgeois de Rouen, qui a dû établir le plan et l'élévation du château. Il est évident que l'écriture architecturale du château est absolument sans rapport avec François Mansart. Jean-Marie Perreuse de Montclos rapproche cette écriture des Francines de façon peut-être un peu indue, tout simplement parce que les maîtres maçons qui ont travaillé à Beauménil ont travaillé ensuite dans les années 1640 aux nymphées de Vitteville, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une écriture, vous voyez, dont le style relève du maniérisme flamand de façon très évidente et absolument pas, même si chez François Mansart, dans sa jeunesse, il y a des échos de ce maniérisme flamand. C'est une des points qui ont été mis en évidence dans les dernières études que nous avons faites sur François Mansart, mais néanmoins jamais avec cette espèce d'exubérance, redondance que vous avez sous les yeux, qui avait intrigué Sauvageau dans son gros ouvrage sur les châteaux de France qu'il avait relevé et qu'il avait conduit à publier ces belles planches de Beauménil. Cependant, il y a un document qui est malheureusement perdu, un dessin qui était conservé au château, qui a été publié dans une revue en 1890 avec des moyens de reproduction qui n'étaient pas les nôtres, et donc d'où l'état de ce dessin tel que je vous le montre après d'autres, qui montre que le château devait être encadré par un quatrième et un cinquième pavillon sur la hauteur duquel on hésitait, en rez-de-chaussée comme on le propose à droite ou avec un étage comme on propose à gauche, mais qu'en tout cas l'idée d'une composition pyramidante a bien été au cœur de la réflexion sur la création de ce château, et que si le style donc n'a rien à voir avec François Mansart, il n'est pas impossible ici que nous ayons là un vrai écho de la composition de Balleroy avec ses pavillons progressivement, montant progressivement vers la composition centrale, dominant de toute sa hauteur le grand paysage qui se développe, mais qui se développe sur l'eau et non pas dans les prairies et le site vallonné de Balleroy. Donc, composition de pavillons hiérarchisés qui font penser immanquablement à Balleroy, sans aucun doute, même si les petits pavillons qu'on voit sur le côté ont été reconstruits dans les années 1920, il est évident, le dessin le montre, qu'ils étaient envisagés, qu'ils ont été dessinés et peut-être construits en partie ou totalement, mais là on a un point fort, même si on a le nom de l'architecte, je crois que c'est bien lui, Gaillard, qui est l'architecte, tel que les documents l'indiquent, même si c'est toujours avec ses formules un peu ambiguës, et donc ouf. Le titre de cette communication se justifie in extremis par cet exemple spectaculaire et je vous remercie de votre attention.